France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Mobilisation générale pour les plus de 50 ans, changer les pratiques, changer la loi, changer les regards vis-à-vis des plus de 50 ans dans le travail. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ça, surtout la fin d'ailleurs, changer de regard? Je ne veux pas être impoli vis-à-vis de nos invités, mais oui, on a déjà entendu qu'il fallait favoriser l'emploi des seniors. On a déjà entendu que oui, un senior est un atout pour une entreprise. Et pourtant, les chiffres ont la vie dure. Le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 58,4%, 74,6% en Allemagne à titre de comparaison. Ce sont les chiffres du ministère. Autre chiffre, même source, 582 jours, donc pas loin de 2 ans, c'est la moyenne du temps d'inscription à France Travail quand on a passé 50 ans. Et est-ce que les plus de 50 ans ont connu des relations de travail dévalorisantes ces 5 dernières années? Absolument oui, répondent la moitié d'entre eux. Sachant, et je devance mon réflexion que j'entends déjà, que personne n'ignore que l'âge de la retraite a été reculé à 64 ans. Alors on y retourne. Le ministère du Travail a sonné, la mobilisation générale, rédaction d'une charte, atelier dans les préfectures de région, job dating dédié, voilà pour la mobilisation, entrer dans la loi, ça veut dire transposer l'accord national interprofessionnel notamment, on verra ensemble ce que ça veut dire, et puis grosse campagne de pub aussi pour changer les regards. Est-ce que ça va suffire? On verra. Est-ce que c'est le salaire le principal frein? L'adaptation des équipements, une question de formation? Est-ce qu'on doit imaginer un régime de temps partiel, imposer un régime de temps partiel aux entreprises passé un certain âge? Il y a un dernier chiffre que je voudrais vous donner avant qu'on vous entende. En 2030, un tiers des Français auront plus de 60 ans. Et ça, c'est dans 5 ans. Donc, est-ce qu'on a devant nous un bataillon grandissant de chômeurs à qui il reste du temps avant la retraite? Parce que vos témoignages déjà nous le disent, c'est pas vous qui lâchez l'emploi quand vous vieillissez, c'est l'emploi qui vous lâche. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et c'est vous Bernard le premier, vous êtes le bienvenu. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
On vous écoute Bernard.
Bonsoir, merci. Écoutez, c'est un témoignage d'un cadre en milieu de cinquantaine, au chômage après un licenciement, et qui n'avait pas réalisé que l'âge pouvait être un frein au retour à l'emploi. Et en fait, même si c'est pas formulé explicitement par les recruteurs, il semble bien que ce soit le problème, un gros problème, sinon le problème fondamental. En tout cas, c'est la perception que je commence à avoir et qui est confortée par le fait que, si j'ai bien compris, l'âge couperet, c'est 56 ans. Ouais. Ça a été établi récemment, donc ça correspond bien. Voilà, j'en suis à un an. Alors, pour revenir sur ce que j'ai entendu sur la présentation de l'émission, oui, c'est angoissant, évidemment, parce que tout d'un coup, on n'a plus aucune perspective. Hein, quand vous approchez de la retraite, même si elle est à 10 ans, vous vous projetez, même si vous n'êtes pas dans cette dynamique de retraite encore, vous voyez bien que les choses vont être un petit peu plus que pour d'autres. C'est extrêmement décourageant parce que ça demande une hygiène de vie et une énergie folle. Faut se rendre compte en fait que non seulement c'est beaucoup d'énergie, mais c'est aussi très délétère, c'est-à-dire que vous faites un marathon chaque jour, quasiment. Donc il faut faire très attention à soi, extrêmement décourageant et très délétère. Évidemment, c'est vis-à-vis de l'entourage très difficile. En fait, il n'y a que ceux qui ont vécu des situations similaires qu'ils comprennent. C'est un peu comme les maladies graves. Le reste de l'environnement est très, très maladroit. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Tout ça, là, en fait, tout ce que je décris, c'est l'effort fait par le vieux, hein, le cinquantenaire, pour retourner à l'emploi. Je pense qu'il y a un vrai problème du côté du recrutement. Il y a un manque de compétences du côté du recrutement. Il y a très peu de communication. Quand on refuse un emploi, on vous refuse un emploi, c'est les messages bateaux. Il y a très peu de communication honnête et franche. Et je pense que c'est un problème ou d'approche de l'âge, du point de vue des recruteurs. Donc il faudrait peut-être que quelqu'un les forme.
J'entends oui. Ce que vous nous dites, Bernard. J'ai compris que vous aviez 55 ans. Ça fait combien de temps que vous cherchez?
Ça fait 2 ans.
2 ans?
Oui.
Et effectivement, ça fait long, et je vois bien que vous aviez un emploi de cadre, non, si je vous entends.
Oui. J'aimerais aussi dire que...
Allez-y rapidement, oui.
Oui, c'est quand même 20 ou 30 ans d'expérience dans l'industrie, en ce qui me concerne, qui sont mises à la poubelle. Quand j'entends parler nos jeunes ministres très, très enthousiastes sur la réindustrialisation, j'aimerais aussi qu'ils se posent des questions. La réindustrialisation, c'est pas que des usines, c'est aussi des compétences, c'est pas que des capitaux qu'on va investir, c'est aussi des gens. Et je pense que, pour revenir sur ce que je disais, est-ce que l'effort ne devrait pas aussi venir du gouvernement et en plus, non pas basé uniquement sur le CV et l'énergie du cinquantenaire ou
un peu au-delà, mais encore que d'ailleurs on va en parler de cette qualification, rien que la qualification déjà de senior quand on a 55 ans, à mon sens c'est un problème, on y viendra. Merci beaucoup Bernard pour votre témoignage, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit pour discuter ensemble ce soir et jusqu'à 20h. Il y a Astrid Panossian-Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre chargé du travail et de l'emploi, et Benoît Serre est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des ressources humaines de L'Oréal France, vous êtes vice-président de l'association nationale des DRH, et les DRH sont associés aussi à l'effort qui doit être fait autour de l'emploi des seniors. On va venir à tout ce que nous dit Bernard, mais tiens, j'ai quand même envie de commencer là-dessus, Astrid Panossian-Bouvet. Est-ce que le simple fait que, de toute façon, on parle de l'emploi des seniors pour des gens comme Bernard, qui a 55 ans, il y a des gens à 55 ans qui ont encore des enfants, qui sont en bas âge, qui vont à l'école primaire, etc. Est-ce qu'on se dit pas parfois que ça commence par là? Le simple fait d'être qualifié de senior quand on vient à peine de quitter, en gros, l'âge de 45 ans, est-ce que déjà, de toute façon, ça le problème n'est pas là?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Fabienne Sintès, et c'est pour ça que je souhaite parler des travailleurs expérimenté, parce que l'expérience, précisément, ça a une valeur. D'avoir travaillé 20-30 ans dans l'industrie comme Bernard, ça a de la valeur. Et senior, ça rapproche plus du monde des retraites, résidences seniors, et finalement de tout le champ des préjugés dont on voit combien ils sont lourds.
Et ça parle de l'approche de la retraite, que Bernard n'est pas dans l'approche de la retraite.
Exactement.
Il lui reste sûrement 10 ans devant lui.
La question, c'est vraiment aujourd'hui, comment est-ce qu'on anticipe alors deux choses, comment est-ce qu'on anticipe sa deuxième partie de carrière en termes de santé, de compétences, et comment aussi on aide au recrutement, mais en tout cas pas, on n'est pas dans la préparation de la retraite. On reste encore dans un univers de la retraite à 60 ans.
Benoît Serre, en préparant cette émission, je suis tombée sur un sondage et qui dit ceci, ça ne va pas vous plaire. 68% des DRH ont déjà écarté des candidatures de profil senior sans même les examiner, supposées trop chères, déconnectées du numérique, moins productifs, souvent absents aussi à cause des soi-disant congé maladie. 74% d'entre eux disent qu'ils ont eu des conseils, des consignes. Trouve-moi plutôt un jeune. Dans ce que nous dit Bernard dans son témoignage, c'est bien sûr qu'il faut faire l'effort quand on cherche du travail. Et alors, on a bien compris jusqu'à quel point il le faisait. Est-ce qu'effectivement, le dernier kilomètre, c'est vôtre, c'est celui des entreprises, en fait, vraiment?
Oui, bonsoir. Les quatre critères que vous venez de donner, c'est quatre préjugés. C'est-à-dire qu'ils sont objectivement faux. Ils sont objectivement faux, on le sait très bien. Je ne vais pas les reprendre, mais notamment l'affaire de la rémunération, l'affaire de la déconnexion informatique ou digitale, c'est faux aussi. Donc voilà, donc ça c'est et l'engagement.
Moins productif.
Enfin... Non, mais c'est faux en fait. Alors, vous avez des situations particulières liées à des situations d'usure professionnelle. Je crois que le chemin est long. Je pense qu'il a déjà commencé. Quand vous regardez les chiffres, vous les avez cités, ils ne sont pas bons, mais ils sont moins mauvais qu'ils n'étaient. Donc c'est déjà ça. Mais en revanche, je crois qu'il y a un vrai travail qui doit être fait par les DRH, donc j'en prends largement ma part et comme d'autres, pour arrêter et pour casser ces préjugés, et d'une certaine manière, comme on l'a fait à une époque d'ailleurs, pour avoir des recrutements équilibrés entre les hommes et les femmes, d'imposer ou d'interdire qu'on puisse retirer des CV sur ce motif. D'abord, c'est illégal, je rappelle, c'est de la discrimination. Et la deuxième chose, c'est stupide. Parce que d'expérience, et j'en ai un petit peu à force, parce que moi je suis déjà un senior depuis quelques années, d'expérience, le sujet d'intégrer des gens plus âgés, des entreprises même managées par des plus jeunes, finalement ne crée pas de difficultés particulières. Mais ces espèces d'a priori sont terribles. Et l'autre élément, et j'écoutais Bernard avec beaucoup d'intérêt, vraiment, quand vous avez 2 ans... En recrutement, ça se voit, en fait.
Bah oui.
Parce que vous êtes nécessairement stressé.
Mais on l'entend à la voix de Bernard. Il parle d'angoisse, il parle de découragement.
Exactement.
On l'a entendu dans sa voix.
Et donc, quand vous êtes recruteur, vous le sentez dans l'entretien. Mmh. Et donc, forcément, c'est pas terrible.
Mais ce que je comprends quand vous parlez, Benoît Serre, c'est vers vous que je me tourne, Astrid Panossian-Bouvet, c'est que, au fond, changer les pratiques, oui, bien sûr. Changer la loi, on y viendra, oui, bien sûr. Mais c'est changer les regards, en fait, le plus important.
C'est ce que vous disiez en introduction. l'évolution. Mmh. On en parle depuis des années. Ouais. C'est vrai que la stratégie, c'est ce que la culture mange chaque matin au petit déjeuner. La culture, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer. Mmh. Mais je pense que d'abord, de valoriser, de changer, de déconstruire le regard, et donc c'est la campagne de communication qu'on va lancer, et puis former aussi les recruteurs, comme le disait Bernard, mais aussi les managers, à les aider à prendre conscience de ces préjugés, c'est aussi extrêmement important. Mmh. Parce qu'il y a la question, effectivement, du préjugé du recruteur, et Benoît en a parlé, mais il y a aussi des réticences que peuvent avoir les managers plus jeunes, de se dire, oh là là, je vais devoir avoir quelqu'un dans mon équipe qui est plus senior, ça peut remettre en cause mon autorité, qui a plus d'expérience que moi, etc. Donc y a la bataille culturelle est absolument fondamentale. Et là, moi, je pense que c'est pas une fatalité, c'est que ces préjugés, ils ont existé dans pas mal de pays. Mmh. Sauf qu'ils s'y sont attelés bien avant nous. Mais alors, je pense aux pays d'Europe du Nord qui s'y sont attelés au début des années 2000 et maintenant, ils ont des taux d'activité deux fois plus importants que nous en ce qui concerne les 61-64 ans.
On va retourner au standard et après, on va parler de ce qu'on peut faire pour pousser, en fait, effectivement, exactement. Parce que changer le regard, avoir une campagne de pub, c'est bien. Mais effectivement, comment on fait pour pousser plus fort ?
On va en parler.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, non, je voulais juste apporter un témoignage intéressant que vous disiez sur la culture, aussi la culture du demandeur d'emploi, c'est-à-dire que dans 57 ans...
Attendez Frédéric, on vous entend tellement mal, parce que vous hachez terriblement, j'ai juste entendu que vous aviez 57 ans, félicitations.
C'est déjà un bon début.
Oui, c'est déjà un bon début. Alors voyons, bougez un tout petit peu, et sinon on vous rappelle immédiatement. Allez-y, continuez pour voir.
Vous m'entendez là ?
Ouais, allez-y.
Ouais. Donc je voulais dire oui ce que vous disiez sur la question de la culture est extrêmement importante et c'est vrai que donc moi j'étais sur un poste où je ne m'y retrouvais pas et ma grande frayeur c'est de me dire une histoire avec un ami qui lui est DRH dans un autre domaine. Il m'a dit mais là j'ai pas forcément un souci, faut pas forcément faire un sujet. Et suite à ça, j'ai décidé que mes CV, je les envoyais, mes candidatures, je les envoyais sans mettre mon âge. Mm-hmm. En me disant, on verra bien si ça passe. Et que,
Et visiblement ça passe, on vous entend pas, vous hachez Frédéric, pardon, mais j'ai entendu ce que vous disiez, vous envoyez des CV sans âge, exactement Benoît Serre, comme effectivement on le fait pour le recrutement, et ça a marché de ce que nous dit Frédéric, hein, on le fait pour le recrutement de certaines personnes, on le fait pour le recrutement des gens qui sont noirs, on change son nom sur ou un département, quand on arrive d'un département qui est considéré comme, etc., par les employeurs, c'est quand même terriblement triste.
Vous conviendrez avec moi, c'est non seulement triste, mais absurde.
Bah, et puis illégal, par ailleurs.
Illégal, ça, c'est sûr. C'est pour ça que la question des préjugés, elle est fondamentale, parce que c'est des réponses à des préjugés, ça, en fait.
Et c'est pour ça qu'on veut faire des testings aussi. Et donc, dans les testings, la DILCRA, qui est la délégation interministérielle qui travaille sur les discriminations, veut travailler sur les discriminations sur le marché du travail, genre, domiciliation, non, et on souhaite aussi ajouter la question de l'âge, parce que l'âge, comme l'a dit la Défenseur des droits, est le premier motif de discrimination. Sur lequel s'ajoute ensuite la question du genre, puisque les femmes de plus de 50 ans sont plus invisibilisées et également les questions d'origine. Donc c'est absolument fondamental, mais vous avez tout à fait raison, Fabienne Synthèse, il y a le changer de regard, mais il y a aussi changer les pratiques et changer la loi.
Alors quand on change la loi, où, comment et par quel bout on force la main, parce que c'est ça que ça veut dire changer la loi, on force la main des entreprises.
Ça veut dire à la fois travailler sur la question du maintien en emploi, et c'est de travailler sur la question du recrutement. Or ce qu'on voit dans les pays qui ont réussi ce pari, c'est pour ça que moi je pense que c'est pas du tout une fatalité, c'est que pour pouvoir travailler plus tard, il faut s'y prendre plus tôt. Et donc on inscrit dans la loi l'obligation d'avoir un entretien de mi-carrière dans lequel on fait un 360 à la fois sur les sujets de compétences et les sujets de santé. Ça c'est un premier point extrêmement important. Un deuxième point extrêmement important, c'est, on en parle au niveau individuel, mais c'est au niveau collectif, et c'est d'obliger aussi les entreprises d'une certaine taille à traiter de ce sujet entre partenaires sociaux chaque année, au même titre que la question de l'égalité professionnelle. Enfin, il y a un point très français qui consiste à regarder le travail, effectivement, des travailleurs expérimentés. Soit on est en activité à 100%, soit on est en inactivité. C'est du 1, c'est binaire. Mm-hmm. Voilà. Le succès aussi des pays d'Europe du Nord comme de l'Allemagne, c'est qu'on voit que y a plein d'aspirations, en fait, des travailleurs expérimentés. Il y en a qui ont envie de travailler à temps partiel, et donc c'est des solutions de retraite progressive. Ça, ce sera dans la loi. Ça peut être le cumul emploi-retraite. Ça, c'est aussi une autre solution. Il y a un point très important, très très important, on peut peut-être aussi le suggérer à Bernard, après 2 ans de recherche dans l'industrie. Moi, j'ai demandé aux partenaires sociaux de se remettre autour de la table pour, si possible, négocier et l'inclure dans la loi en juin, sur les transitions reconversion. Parce qu'il y a aussi nécessité pour des personnes, pour entamer leur deuxième partie de carrière, eh bien, de se reconvertir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut toujours être dans un domaine particulier, mais de se reconvertir sur d'autres palettes. Je ne connais pas le background, le métier que faisait Bernard dans l'industrie, mais c'est aussi ce sur quoi il faut réfléchir, mais également pas simplement dans l'emploi salarié, dans le portage salarial, dans le conseil ou dans le management en transition.
On aura tout à l'heure une syndicaliste à la CFE-CGC qui a 2-3 choses à rajouter effectivement là-dessus, mais je vais quand même devancer la question avec vous, Benoît Serre. Une forme de droit opposable, en fait, d'un régime au moins à temps partiel passé un certain âge, hein, parce que c'est enfin, dans les tuyaux, pas forcément, mais en tout cas parmi les propositions qui peuvent être faites ici et là, est-ce que c'est un non des employeurs ou pas?
Alors c'est difficile, moi je ne peux pas prendre des positions pour les syndicats d'employeurs. Je dis simplement que dès lors qu'on crée un certain nombre d'obligations, on crée, ça peut faire avancer, mais ça ne change pas la culture en fait. Moi je crois beaucoup plus à la transformation par la culture, par les démarches comme celle qui a été engagée, mais aussi par les évolutions législatives. Vous avez sans doute vu qu'il y avait le contrat de valorisation de l'expérience qui devrait sortir. Oui. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions. Dès lors que vous créez, moi je crois plus à la transformation par la culture que par la contrainte, très honnêtement, même si il faut reconnaître que l'index égalité a donné des résultats objectifs, mais sur un cas comme celui-là, c'est un peu compliqué. En revanche, faire en sorte que embaucher un senior, il y a les réponses à la question de maintenir les seniors à l'emploi. Le ministre vient de l'évoquer, les bilans de compétences, de carrière, etc. Apprendre à embaucher. Le cas de Bernard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être embauché alors qu'il est compétent. Moi, j'ai une conviction simple, l'expérience, c'est une compétence. Donc, il faut créer des conditions plus favorables pour que les entreprises puissent le faire. Vous avez le système classique, mais le contrat de valorisation d'expérience, qui sera sans doute dans la loi, qui a été dans l'accord national interprofessionnel, il répond aux soucis de l'entreprise. Quand j'embauche quelqu'un de 58, 59, je ne sais pas combien de temps il va rester, qu'est-ce que je vais en faire jusqu'à 70 ans, parce que vous savez qu'en France, on peut partir jusqu'à 70 ans.
Mais est-ce que la clé, c'est pas justement ça? C'est de dire que dans cette embauche-là, il y a aussi le contrat qu'on passe,
qui est
presque un contrat moral. À cet âge-là, je m'en vais.
Alors voilà, c'est exactement ça, ce qui est contenu dans le projet de loi, mais je ne l'ai pas lu. C'est le contrat de valorisation d'expérience, c'est-à-dire que quand on embauchera quelqu'un de 55, c'est 60 ans.
Oui, mais ça peut avancer à 58 ans.
Avancer à 58 ans. L'entreprise pourra interrompre son contrat le jour où il a le taux plein. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, employeur, je ne sais pas la date de taux plein de mes collaborateurs. Je n'ai pas le droit de le savoir. Ça, c'est des manières qui répondent à la fois à l'expérimenté qui cherche un emploi et qui vit dans l'angoisse de ne pas attendre le taux plein, et à l'employeur, ça inquiète de recruter des gens sans vraiment savoir quand ça pourra s'arrêter. Ben, c'est une forme de garantie. Mais il faut que les entreprises s'en saisissent. Ça sera, j'espère, un très bon outil pour l'embauche.
C'est pour ça que vous pouvez avoir la meilleure boîte à outils possible. Il faut que la transformation culturelle se fasse et que les entreprises s'en saisissent. Et donc, quand on a parlé de changer les regards, il y a changé la loi, mais il y a changé les pratiques. Mmh. Et donc, ce qu'on a lancé hier au ministère du Travail, c'est une initiative avec l'Association nationale des DRH, les organisations patronales, le collectif des entreprises s'engagent, pour aussi partager les bonnes pratiques en termes de recrutement, de sensibilisation des recruteurs, des managers, de valorisation des expériences, de pouvoir voir une carrière tout au long du cycle de vie. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. Changer les pratiques, c'est absolument fondamental. Il faut embarquer les entreprises.
Retour au standard. Et voici Denis qui nous appelle. Bonsoir, Denis.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, j'avais 2 remarques à soulever par rapport à l'emploi des seniors. La première, c'est que j'ai eu le cas, je cherchais à recruter des seniors, et en fait, je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, ils n'avaient, quand ils sont à environ des 62 ans, 63 ans, et qu'ils veulent continuer à travailler tout en étant à la retraite, ils n'ont pas le réflexe de contacter Pôle emploi France Travail. Voilà. Et donc, du coup, ça leur est très difficile de repartir à l'emploi parce qu'ils n'ont pas ce réflexe de contacter France Travail pour avoir des postes, d'une part. Et deuxièmement, je suis chef d'entreprise et le risque que je me rends compte maintenant, de plus en plus, c'est le risque maladie professionnelle. On embauche quelqu'un en tant que senior, 50, 55, La personne occupe son poste pendant 14 jours. Mmh. Au bout de 14 jours, elle se met en arrêt maladie. Un an, deux ans.
Oui,
et derrière, vous avez une reconnaissance maladie professionnelle pour avoir occupé le poste 14 jours. Et à l'arrivée, vous
n'avez pas eu de chance dans votre recrutement, Denis, visiblement.
J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu plusieurs.
Beaucoup de cas de ce type-là.
Comment?
Beaucoup de cas de ce type-là.
Oui, trois. Ouais. Trois en l'espace de 4 ans.
Allez-y, pardon.
Je suis dans un métier, c'est pas des cadres. Hein.
Alors, c'est quoi votre entreprise, Denis?
Des métiers de service. Okay. Service à la personne.
D'accord, ok.
Et donc, effectivement, il y a toute une culture aussi qui fait que plus les gens prennent de l'âge, plus ils aspirent à partir à la retraite parce que nous avons été biberonnés en France au fait que le travail rend malade. Mmh. Donc effectivement, quand on baigne dans cette ambiance-là de façon très très longue, depuis très longtemps, eh bien inévitablement les gens somatisent et inévitablement on recherche qu'une chose, à partir à la retraite, voire par tous les biais ou tous les moyens possibles.
Denis,
et on est nombreux dans ce cas-là.
Denis, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, tout le monde n'aspire pas... à partir à la retraite, un jour ou l'autre, on y aspire évidemment tous, mais tout le monde n'est pas évidemment dans le cas. Alors, de Denis qu'on croit sur parole, ailleurs, mais...
Bien sûr. Non, écoutez, on a eu des témoignages de Bernard et de Frédéric qui montrent que, voilà, ils n'aspirent pas à la retraite, ils aspirent à continuer à pouvoir travailler. Il y a deux sujets, quand même, qui sont intéressants, qui sont soulevés par Denis. La première, c'est qu'il faut faire effectivement une différenciation en fonction des métiers entre cadre et non-cadre. Et Denis est chef d'entreprise dans les métiers des services à la personne. Il faut savoir qu'on a jusqu'à 25% des aides à domicile qui partent en inaptitude professionnelle entre 51 et 59 ans. Mmh. Donc on a tout un sujet qui est associé aussi aux aménagements de postes et aux préventions de l'usure professionnelle. Et il y a peut-être effectivement des postes qui ne sont pas tenables toute une vie. Et le deuxième point, c'est France Travail. On a lancé justement un dispositif en expérimentation qu'on va généraliser parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a la nécessité de sensibiliser aussi les conseillers France Travail et de travailler sur des formations beaucoup plus courtes, de 4 mois, collectives, pratiques, en immersion avec les entreprises pour pouvoir proposer des taux d'insertion importants pour les travailleurs de plus de 50 ans.
Après, il a raison, hein, Benoît Serre-Denis, on peut continuer à travailler tout en étant à la retraite. Enfin, il y a 1000 manières de faire les choses. Maintenant, c'est très contre-intuitif pour dire les choses.
C'est contre-intuitif, c'est assez mal utilisé, c'est assez mal connu. Donc, l'accord d'insertion professionnelle revalorise certains dispositifs. Et ça, c'est plutôt une chose positive. Je crois qu'il faut avoir une approche plus souple du travail pour traiter le sujet des travailleurs expérimentés, en fait. Parce que chaque travailleur est un peu différent en fonction du métier, l'usure professionnelle. Le rapport récent qui a été publié par l'UNEDIC montre que c'est une population qui est peu mobile géographiquement, ce qui se comprend. Mais ça veut dire qu'il faut donc avoir des approches plutôt de bassin d'emploi. Je pense que ce que expliquait la ministre, à savoir qu'on a une espèce de culture, on sait où on bosse, où on bosse pas. Mais en fait, il y a plein de solutions entre les deux. Et ce sont les sujets d'aménagement du temps de travail, de dispositifs que certaines grandes entreprises ont mis en place.
Oui.
Voilà, donc il faut pousser à la généralisation.
Il y avait des témoignages très intéressants hier d'entreprises, en fait, qui disent mais il y a autant de travailleurs expérimentés que d'aspirations. Il y a ceux qui ont envie de mettre un petit peu le frein et travailler à temps partiel parce que petits-enfants ou parce que aidance familiale. Il y a des gens qui ont envie d'être dans la transmission. Il y a des gens qui se disent chouette, j'ai plus d'obligation familiale, je vais pouvoir me donner à fond dans le travail. Et c'est aussi aménager ces parties de carrière en fonction aussi de ses sensibilités, de ses aspirations. Parce que derrière, encore une fois pour les entreprises, il y a la transmission et la préservation des savoir-faire.
Retour au standard, voici Thomas. Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors mon expérience, j'ai cherché du travail vers 48-49 ans, j'avais une certaine expertise et lors d'un rendez-vous avec une RH, au-delà qu'elle entourait souvent mon âge sans s'en rendre compte, elle me disait mais vous ne serez jamais capable d'accepter.
C'est terrible.
C'était il y a combien de temps?
Il y a 15 ans.
Okay.
Vous ne serez jamais capable d'accepter une baisse de salaire. Et je lui dis mais je ne comprends pas votre propos puisque en fait quand on a peut-être fini de rembourser ses emprunts, que ses enfants commencent à travailler, le besoin de niveau de vie n'est pas le même. Mais elle ne me croyait pas, elle m'a dit « mais je suis sûr que vous n'allez pas rester ». Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, lors d'un autre entretien, j'avais une certaine expertise. Je voulais plus forcément être quelque part responsable, je voulais plutôt réintégrer une équipe, et ça passait pas du tout, parce que la personne qui m'embauchait aurait été presque au même niveau que moi d'expertise. Et généralement, on peut avoir peur de quelqu'un qui a le même niveau. Donc, il y a aussi beaucoup de blocages d'expertise à l'embauche ou de ne pas croire qu'on peut baisser de salaire s'il faut, parce qu'on a envie de retravailler dans ce qu'on aimait.
Merci pour votre témoignage, Thomas. Je vais y ajouter celui d'Hélène sur WhatsApp qui nous dit ceci. Mon mari a 51 ans. Un patron est ravi de l'embaucher s'il accepte d'être payé au SMIC. Il gagne aujourd'hui moins que ce qu'il gagnait au début de sa carrière, mais on n'a pas le choix. Sinon, pas de travail. Vous disiez tout à l'heure, Benoît Serre, que théoriquement, l'argent n'était pas un frein à l'embauche des seniors.
Il y a des limites à tout.
Voilà. Oui, l'argent est un frein à l'embauche des seniors.
Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, si on est dans des situations extrêmes telles que celles que vous venez de décrire, on peut comprendre. Ne serait-ce que parce que l'expérience, ça se rémunère, en fait. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui ont de l'expérience, ça se rémunère. Mm-hmm. Et on a un marché du travail qui est structuré comme ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce ne serait plus le cas à partir de 50 ans, en disant là, ça n'a pas de valeur ? Quelquefois, c'est vrai qu'il y a des discussions autour de ce sujet-là, tout simplement parce que, et ça vaut pour n'importe quelle embauche, vous devez respecter une sorte d'équilibre dans vos modèles de rémunération. Mmh. Donc, et moi, j'ai déjà vu des gens expérimentés qui comprenaient cette logique-là, puis après, le principal, c'est rentrer et puis évoluer. Après, je crois que les deux témoignages qu'on vient d'avoir, même si je m'occupe de la situation nationale des DRH, je pense que ce sont des mauvaises pratiques, et il faut le dire, en fait. Dire c'est pas normal. Alors peut-être que la jeune RH qui a entouré son âge et qui dit vous accepterez jamais de baisser le salaire, parce qu'elle avait peur elle-même de baisser le sien, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'on fait quelquefois mal le boulot, quand même.
Dans la deuxième partie de la question de Thomas, il y avait l'idée que j'ai été cadre de ce que je comprends, et aujourd'hui, je n'ai plus envie, j'ai envie de revenir. Et là, vraiment, c'est intéressant, comme si, effectivement, il fallait... Alors, je pense que ça ne touche pas d'ailleurs que les seniors, mais les seniors en particulier, comme s'il fallait qu'on ait tous une carrière linéaire, et qu'on ait, au fond, la carrière de celui qui est en train de nous embaucher, d'une certaine façon. Là aussi, ce n'est pas seulement dans les pratiques, Astrid Panossian-Bouvet, c'est dans les têtes des employeurs.
Dans les représentations. D'où la nécessité de changer aussi les imaginaires et changer les pratiques. C'est pour ça que je veux vraiment, on a vraiment avec l'Association Nationale des DRH dans cette initiative voulu mobiliser les entreprises parce que effectivement c'est se rendre compte qu'une personne qui a plus de 55 ans n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'auparavant.
Ce qui est intéressant, c'est que dans la tête des employeurs...
C'est de former aussi les managers parce que de plus en plus les recruteurs sont sensibilisés à cette question parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Il y a des savoir-faire à préserver.
Les reconversions...
Les managers qui sont parfois des obstacles.
Les reconversions, on sait ce que c'est, sont rentrées dans les mœurs. On peut comprendre quelqu'un qui arrive en disant « je suis en reconversion », mais quelqu'un comme Thomas qui arrive en disant « je ne suis pas en reconversion, mais c'est bon, j'ai soupé du management, je veux remettre les mains dans le cambouis pour dire les choses », ça on ne sait pas ce que c'est. Ça, on comprend.
Alors, un point, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va nous aider, c'est que d'ici avril 2026, on doit transposer une directive européenne sur la transparence salariale. Alors, c'est une transparence salariale entre les hommes et les femmes qui sera beaucoup plus complète que l'index qui existe en France, l'index d'égalité professionnelle. On pourra revenir. Mais il y a notamment deux choses. Ce sera interdit de demander pendant le recrutement le salaire antérieur. Et surtout, il faudra, dans les annonces de job, avoir des fourchettes précise de salaire. Et donc ça veut dire que la personne qui candidate pour un
ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'embaucher le mari d'Hélène au SMIC, en fait.
Ça veut dire que une personne qui candidate à un job, elle a la connaissance de la fourchette de salaire et donc on peut présumer qu'elle est d'accord avec le salaire qui est proposé.
On parle de favoriser l'emploi des seniors ce soir au téléphone sonne avec Astrid Panossian-Bouvet qui est ministre chargée de l'emploi et du travail, avec Benoît Serre qui est le vice-président de l'Association nationale des DRH et aussi avec vous Christelle Thieffine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale de la protection sociale à la CFE-CGC. Je ne sais pas si vous avez suivi une partie du débat qu'on vient d'avoir. Vous, ce qui est intéressant chez vous, c'est que la clé pour l'emploi des seniors, c'est d'aider à bien finir sa carrière. Comment, selon vous, on aide à bien finir sa carrière pour éviter justement qu'on soit en recherche d'emploi et qu'on garde son travail à l'intérieur de son entreprise ?
Eh bien, tout à fait. Alors, j'ai suivi vos débats et puis suivi et participé aux différentes négociations et particulièrement aussi les sujets de retraite. Donc, c'est évident, sur cette question d'emploi des seniors, il y a deux axes. C'est le retour à l'emploi, ça a été dit, et puis effectivement, ne pas sortir de l'emploi. Oui. Et donc, d'être dans des bonnes conditions pour pouvoir y rester. Et ça, pour nous, à la CFE-CGC, de pouvoir rester dans l'emploi et dans des bonnes conditions, c'est la résultante du travail et des efforts qui ont été faits dans l'entreprise tout au long de la carrière. En fait, c'est ça qui est primordial, c'est-à-dire sur les conditions de travail, sur l'organisation de travail, sur les compétences, sur les évolutions de carrière. Et c'est le résultat qui donne à la fin des salariés qui ne sont pas usés par leur travail, donc qui sont encore en capacité physique de le faire. Alors, soit parce qu'on a travaillé sur les conditions de travail, mais aussi sur les questions de transition professionnelle et de pouvoir changer de job à un moment donné. Et puis aussi sur l'accompagnement des compétences. Donc, je disais, l'évolution des carrières et donner aussi des perspectives. Parce que, vous savez, moi, à la CFE-CGC, je représente des personnes qui sont de l'encadrement. Donc souvent, on sort de l'encadrement ces questions physiques, mais en fait, moi, j'assiste à beaucoup de salariés qui, à un certain âge, en fait, en ont assez de leur travail et ne se voient plus continuer. Et ça, c'est une problématique, donc avec des gens qui démissionnent de façon volontaire ou pas, et puis souvent, un accompagnement de l'employeur qui ne leur donne plus non plus de perspective.
Et vous, vous...
Et donc, tout ça, c'est vraiment le sujet.
Et vous, vous êtes vraiment favorable à une forme de droit opposable, quelque chose qui ressemblerait au congé parental, donc pour un régime à temps partiel?
Exactement. En fait, pour nous, une des solutions, c'est aussi l'atterrissage et de bien terminer sa carrière et donc de pouvoir la finir en biseau et puis de rentrer dans des systèmes de temps partiel et de retraite progressive. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des taux de personnes qui sont en retraite progressive qui sont très, très faibles. On est autour de 10 000 personnes en France chaque année qui rentrent de ce type de dispositif. C'est vraiment trop faible.
Et c'est effectivement très demandé, ajoute Astrid Panossian-Bouvet, donc visiblement, c'est à portée de main.
Voilà, et c'est des discussions qu'on a évidemment déjà eues avec Madame la Ministre. Et nous, ce qu'on attend en tant que partenaires sociaux, c'est qu'il y ait des exigences plus fortes, notamment au niveau du gouvernement, auprès des entreprises. Parce que ce que nous opposent toujours les entreprises, c'est les questions d'organisation qui seraient difficiles. Certes, on le sait. Mais si on ne fait pas cet effort-là, eh bien, on n'arrivera pas à transformer les choses. Donc, on a vraiment cette attente-là. Et donc, nous, on proposait effectivement l'aspect opposable, c'est-à-dire que les entreprises n'aient pas le choix quand le salarié veut y aller.
Opposable, Astrid Panossian-Bouvet, j'ai posé la question à Benoît Serre tout à l'heure.
C'est une question qui avait été discutée entre partenaires sociaux en novembre dernier. Donc les retraites progressives ont été simplifiées, ça a été avancé de 2 ans, donc on peut commencer à 64 ans, si tant est qu'il y a cet accord. Pour l'instant, effectivement, le patronat pour signer n'était pas d'accord pour le rendre opposable, mais je pense qu'il faut continuer à discuter. Ça peut aussi se discuter dans le cadre du fameux conclave, parce que ce sont des discussions comme le cumul emploi-retraite. Mais je pense que c'est absolument la délégation paritaire permanente, mais je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui de penser la fin de carrière, non pas comme quelque chose de binaire, et les retraites progressives et le temps partiel en fait clairement partie.
En revanche, Christelle Thieffin, on en parlait tout à l'heure avec Benoît Serre, l'idée d'un CDI senior, mais qui aurait une fin, en fait, dont la fin serait actée.
Ça a été signé.
Et ça, pour le coup, là-dessus, vous le faisiez dès demain, la CFE-CGC, non? Enfin, des demandes,
oui, alors en fait, la problématique, c'est qu'on avait un CDD senior qui existait et qui n'a pas amené à ces résultats. Ouais. Donc, si vous voulez, cette question du CDI senior nous tord un peu les aiguilles. On l'a accepté tout de même et de signer le texte à titre expérimental. On verra si ça porte ses résultats. En tout cas, si vous voulez, ce qui nous embête, c'est de se dire, finalement, c'est l'employeur qui décidera. Est-ce qu'il doit arrêter le contrat? Et en fait, il n'y a aucune possibilité côté du salarié. Et c'était vraiment ça qui nous pose problème. On enlève des droits à un salarié. Voilà, et qu'on tord un peu les aiguilles sur le titre de CDI, finalement.
Je vous remercie, mais allez-y, Benoît Serre, parce que je vous ai
le contrat de la duration d'expérience, ce n'est pas CDI. Et la date, la date minimale, vu de l'employeur, parce que le salarié, il peut partir quand il veut, c'est la date du taux plein. C'est surtout ça qui est important. Il fallait garantir, trouver un moyen. J'espère que les entreprises, je partage le point de vue avec vous, vont s'en saisir, et je les engage beaucoup à le faire. Parce que c'est quand même un sujet majeur pour les gens d'atteindre le taux plein. Après, les conditions de travail que vous avez évoquées, c'est des choses qui sont en train d'avancer. De toute façon, on ne pourra pas traiter ce sujet sans traiter le sujet nouveau travail. Et juste une seconde, Fabien Sey, si vous voulez bien. La question des carrières non linéaires, elle est pour toutes les générations, puisque on observe aujourd'hui que des tas de gens beaucoup plus jeunes disent « Mais moi, la montée hiérarchique, ça ne m'intéresse pas. Je veux plutôt être dans l'expertise. » Et j'observe que certaines entreprises commencent à valoriser l'expertise autant que la montée managériale en termes de rémunération, et ça c'est très important.
Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous Lionel, d'autant que vous abordez un angle que nous n'avons pas encore abordé. On vous écoute, bonsoir Lionel.
Bonsoir madame.
On vous écoute.
Oui, ben, c'est tout simple, ça va faire bientôt 40 ans, puisque la retraite est dans un an, que je suis dans la même société, je suis cadre supérieur, et il y a 2-3 ans, en 2 minutes au téléphone, on m'a dit trop vieux, trop cher, et on m'a placardisé. Mmh. Donc c'est parti en déprime, c'est parti en burn-out, c'est parti en tant que manager de plus de 80 personnes en petit travail de, entre guillemets, excusez-moi, de secrétaire. Et heureusement, j'ai réussi à bénéficier de ce qu'on appelait un contrat de génération. Et me voilà dans une association complètement défiscalisée pour ma dernière année, pour aider les chômeurs à se remettre en selle, mm-hmm. à la cravate solidaire.
Ah oui, et la cravate solidaire.
Tout ça, voilà, tout ça pour vous dire que ma boîte a préféré me payer à rien faire, plutôt que m'employer. Et je vous avoue que c'est très dur de discuter avec son chat 24 heures sur 24.
Je peux comprendre. Merci beaucoup Lionel pour votre témoignage, Astrid Panossian-Bouvet. Et c'est vrai qu'il y a rester dans l'emploi, il y a retrouver de l'emploi, et puis il y a continuer à avoir un emploi qui compte jusqu'au bout, plutôt que de considérer... Je vois très bien l'entreprise de Lionel qui ne peut pas le virer parce que, ben, heureusement, c'est interdit. Hein, mais néanmoins, on va le coller au placard. De toute façon, il lui reste 2 ans. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, enfin, là aussi, il doit y avoir quelque chose...
C'est pour ça que c'est un combat national. C'est pour ça que je pense que c'est un gâchis humain. Enfin, quand on entend tous ces témoignages de Bernard, de Frédéric, de Thomas et autres, c'est un gâchis humain, c'est un gâchis économique, c'est un gâchis social. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de se battre, parce que des pays avaient exactement les mêmes problèmes il y a 20 ans et maintenant ils ont des taux d'activité, c'est-à-dire que travailler plus de 61, 62, 63, 64, c'est normal, quoi. Et je pense qu'il va falloir aller là-dessus aussi, quoi.
Et
absolument, avec le temps, avec la question du temps, mais de manière différente, c'est-à-dire, et je rejoins les propos aussi de la représentante de la CFE-CGC, c'est-à-dire en prenant en compte la question des compétences, de la santé, des conditions de travail et des aspirations et des besoins des entreprises, notamment sur la question du temps partiel et de l'organisation qui va avec. Je pense que ça implique de changer un petit peu nos manières de penser, nos manières d'agir en entreprise.
Très très rapidement, il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même vous livrer ce message. Ça a été un choc. À 48 ans, le conseiller Pôle emploi m'a dit que j'étais senior sur le marché de l'emploi. Emploi aidé, intérim, CDD, RSA, saisonnier. Je n'ai jamais réussi à obtenir un CDI avec mon niveau de compétence. Et pourtant, j'avais été directeur technique dans l'industrie. Ça nous permet un peu de boucler la boucle, Benoît Serre, parce que notre premier auditeur aussi était dans l'industrie. Et sa remarque qui disait, alors, on est en train de nous dire partout qu'il faut réindustrialiser la France, et voilà qu'on n'a plus besoin de nous. Je trouve ça très pertinent.
Et alors, c'est très pertinent pour une raison. Il y a cette raison-là. Il y a la raison, au fait, aussi des départs massifs à la retraite d'ouvriers industriels dans les prochaines années, on n'aura pas les compétences. Donc c'est pour ça que c'est urgent d'avoir un travail commun entre entreprises, pouvoirs publics, partenaires sociaux qui ont un rôle très important, parce qu'on oublie, c'est un mot qu'on n'a pas entendu ce soir, la démographie. Elle est redoutable. On va avoir besoin de gens expérimentés, compétents, parce qu'on manquera de jeunes. Donc c'est vraiment très important, mais c'est pas la démographie qui réglera le problème tout seul. Mais je pense que en tout cas, moi, j'observe depuis quelques années que le chemin avance.
Un tiers des Français auront plus de 60 ans d'ici à 2030. Voilà. Donc la démographie, à un moment, est plus forte que nous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci vraiment. Merci à tous pour vos nombreux appels.